you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémence Pouletti, Lucille Comeau et Florent Georgesco pour parler ensemble de La femme aux cheveux roux d'Oran Pamuk, publié chez Gallimard, un roman mexicain, L'affaire Florence Cassez de Jorge Volpi au seuil, White de Bret Easton Ellis chez Robert Laffont, et puis il y aura un coup de cœur de Lucille Comeau pour une bande dessinée, Révolution, tome 1, La liberté, de Florent Groisel et Youn Locard, paru chez Actes Sud. Nous ouvrons cette dispute avec le nouveau livre de l'écrivain turc Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature 2006. C'est un roman qui s'intitule « La femme aux cheveux roux ». Il est publié chez Gallimard dans une traduction de Valérie Gay-Aksoy. Avant d'en parler, évidemment, et de nous disputer autour d'Isselui, le résumé de votre sentiment sur ce livre, Florent Georgesco.
Il faut que je vous prévienne que j'aurai du mal à avoir un avis tranché.
Ça nous changera.
Ça nous changera, oui. C'est très agréable de temps en temps.
Restez dans cette humeur, c'est très bien. Ne changez rien. Lucille Comeau.
Bon, très bien.
Un résumé.
Je ne bouge pas.
Alors, un roman classique, efficace dans ce classicisme, mais que j'ai trouvé pour ma part assez ennuyeux.
Clémence Pouletti.
Une réécriture plutôt charmante des contes d'antan façon Istanbul à l'ère moderne.
Une lecture par Boris Pinault.
Les nuages s'étaient dissipés, le soleil pointait, et même les terres nues et semi-arides qui nous environnaient avaient pris des couleurs. De bruyants et noirs corbeaux surgissaient des champs de maïs à travers lesquels ondoyait la route. Ils sautillaient sur la chaussée et, dès qu'ils nous apercevaient, ils s'envolaient à tire-d'aile. Je remarquai le bleu étrange dont se teintaient les cimes violettes du côté de la mer Noire, le vert des rares bosquets disséminés entre les champs gris et jaunes de la plaine en arrière-plan. Le plateau du haut où nous creusions le puits, le monde entier, les maisons aux couleurs pâles dans le lointain, les peupliers tremblotants, la voie ferrée incurvée, tout était beau et, dans un coin de mon âme, je savais que si j'étais assailli par cet agréable sentiment, c'était grâce à la jolie femme aux cheveux roux que j'avais aperçue peu avant sur le pas de sa porte. Je n'avais pas vraiment pu voir ses traits. Pourquoi sa mère et elle se disputaient-elles? Son allure m'avait fait de l'effet. Ses cheveux roux avaient brillé d'un curieux éclat dans la lumière. Elle m'avait considéré un instant comme si j'étais une ancienne connaissance et qu'elle se demandait ce que je faisais ici. Et c'est à ce moment que nos regards s'étaient croisés. Nous nous étions regardés comme si nous cherchions tous deux la trace d'un souvenir, avec une insistance presque inquisitrice. En sombrant dans le sommeil, je voyais les étoiles et j'essayais de me remémorer le visage de la femme aux cheveux roux.
Voilà pour cet extrait de La femme aux cheveux roux, avis nuancé Florent Georgesco que vous allez pouvoir développer. Mais d'abord, ça ne vous empêche pas de nous dire de quoi ça parle ce livre au départ.
Ça parle de Sem qui est un adolescent en Turquie, il y a quelques décennies de cela, qui rencontre un été un puisatier. Ce puisatier l'engage pour l'aider à creuser un puits dans les abords d'une petite ville près d'Istanbul. Et on s'aperçoit que creuser un puits est une opération très longue, qui dure en l'occurrence, il faut au moins 130 pages pour y arriver, et encore. Il est vrai que pendant le creusement de ce puits, il arrive 2-3 choses à Sem. Par exemple, il tombe amoureux. On l'aura deviné, il tombe amoureux d'une jeune femme rousse, une femme plus âgée que lui, aux cheveux roux. Il va faire l'amour pour la première fois. Il va aussi commettre quelque chose de terrible. Et se souvenir de cette chose terrible pendant les 160 pages restantes.
Il y a presque déjà du commentaire quand même dans ce résumé, qui est très orienté, Florent Georgesco.
C'est factuel.
Mais on entend votre voix là quand même. Hein.
Mais les choses s'accélèrent ensuite.
Bon, point.
Et ça, c'est un fait aussi, puisque la suite,
point.
C'est le
point,
reste de la
continue,
vie de
ça, c'est
Seine. Mais nos auditeurs doivent savoir ce qui se passe après. Parce que quand même, le livre et les deux à
pas
la
trop.
Fois, c'est le long creusement d'un puits. Et c'est aussi une vie qui défile beaucoup plus vite.
Parce qu'on arrive jusqu'à quasiment nos jours.
On arrive aujourd'hui, on voit presque. Une des choses passionnantes du livre d'ailleurs, et qu'on voit la Turquie se transformer, aussi bien physiquement, si je puis dire, c'est-à-dire se moderniser, se bâtir, et être emporté par le souffle du fanatisme qui va aussi rejaillir sur notre personnage devenu vieux, enfin plus vieux, devenu riche aussi, mais pas moins tourmenté par son passé.
Merci Florent Georgesco pour ce résumé qui va assez loin dans le résumé. Vous parlez d'un adolescent en Turquie. Une adolescente en Turquie,
oui.
Clémence Poletti, là c'est le moment de l'autobiographie.
C'est ça.
Parce que vous nous avez avoué sous la torture
oui.
que vous avez fait votre scolarité en Turquie.
C'est ça, mon collège.
Du coup, cette lecture, j'imagine, a un goût particulier.
Oui, c'est vrai. J'ai eu une tendresse particulière pour Orhan Pamuk. J'aime toujours beaucoup lire ses livres. Et donc, quand j'ai appris qu'il en sortait un nouveau, j'ai eu très très envie de le lire. Alors, là où je vous rejoins, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée lorsqu'il parle de Maître Mahmoud et de cette création de puits. Parce que je n'attendais que les passages avec la femme aux cheveux roux. Et d'ailleurs, je me suis complètement...
Mais t'es super désirée, ce qui est logique
oui,
en même
oui.
temps.
Oui, et en fait, justement, c'était ça qui était super. C'est que je me suis complètement identifiée à Jem. Et donc, du coup, moi aussi,
alors,
j'attendais...
On veut le prononcer bien, vous.
On dit Jem. Hein.
Ah oui, c'est
notez,
vrai, pardon.
Notez-le. Non, mais c'est bien, c'est pratique. Je viendrai pour toutes les émissions avec des écrivains turcs.
Ah, super. Et donc, du coup, c'est vrai que moi aussi, toute la journée, pendant qu'il creusait son puits, bah, j'attendais de retrouver la femme aux cheveux roux. Et moi aussi, j'étais frustrée quand le soir, il déambulait dans les rues et qu'il ne la trouvait pas. Les passages où il parle d'elle, d'ailleurs, sont absolument magnifiques. Celui qu'on vient d'écouter. Et puis, il y a aussi cette phrase que j'ai trouvée sublime. J'étais tellement étourdie par ce que j'avais vu sur scène, par le raqueux et par ma passion primitive, que je n'arrivais pas à vivre le moment présent. J'étais soit dans le passé, soit dans les projections que j'échafaudais. Tout était fragmentaire comme des souvenirs épars. Mmh. Alors ça, c'est sublime.
Là, vous êtes projetée, là.
Oui. C'est vrai. Et le passage où il dit que les lectures, il avait envie de lire avec elle, parce que les lectures que l'on lit jeune lorsque nous sommes amoureux, ça forme un homme ou une femme. Bref, j'ai trouvé ces passages.
Parce que c'est son père qui lui racontait ça.
C'est vrai, à propos
d'une
autre femme qui n'est pas sa mère. Ça, c'est terrible. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça parle aussi d'Oedipe et de Rostam. Et cette réécriture-là de ses complexes et de ses mythes, j'ai trouvé que c'était très intéressant de les lire dans le contexte turc.
Vous allez développer dans un instant. Pas encore entendu Lucille Como sur ce livre.
Oui, c'est un roman qui marche vraiment sur deux jambes, donc la jambe du roman
pratique.
De formation dont vous avez parlé, et qui en effet est extrêmement classique dans sa linéarité, et y compris dans ses ellipses, cette fameuse ellipse centrale, voilà, qui rappelle même Flaubert, enfin, c'est extrêmement occidentalo-classique, on va dire. Et puis tout ça, cette forme-là est matinée d'éléments de conte et de fable, qui sont à la fois explicités, puisqu'en effet le personnage devient obsédé par toutes les fables, les contes du monde entier, qui parle de père et de fils, et surtout de père et de fils qui se tuent l'un l'autre, ça c'est réversible. Et donc du coup, le roman fonctionne sur ces deux jambes-là. Moi, là où il me semble que ça fonctionne pas très bien, c'est que je pense que l'une empêche l'autre d'avancer. C'est-à-dire que Oedipe, c'est un mythe qui est à la fois quelque chose de très sommaire de l'ordre de la fable, c'est aussi une interprétation psychologique. On sent que le roman essaye de tenir à la fois le côté sommaire du conte qui est extrêmement dépouillé de toute considération disons subjective et des questions psychologiques parce que on est dans un roman de formation classique donc il faut expliquer l'attachement d'un fils pour son père, l'attachement d'un homme pour une femme, etc. Et je crois pas que les deux puissent fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a une forme de concurrence qui se met en place, donc on n'est ni vraiment intéressé par ce qui arrive à cet adolescent et sa formation reste assez abstraite. Sa relation avec son père, par exemple, qui paraît être quelque chose d'important et assez filandreuse. Moi, je m'y attache assez peu. Et à l'inverse, le côté conte est presque trop fermé, trop exclusif. Enfin, ça devient extrêmement linéaire. Moi, j'ai prévu à peu près tout ce qui allait pouvoir se passer
c'est
dans
parce que
ce roman.
Forte,
non, je pense pas. Parce que il y a un côté très prévisible et ça donne quelque chose d'assez ennuyeux, je trouve, à la lecture.
Un propos donc un peu nuancé. Ce qui me permet de relancer vers Florent Georgesco.
C'est surtout C'est-à-dire, comme souvent, le problème, c'est ce que Pamuk veut mettre là-dedans. Vous pointez un des problèmes en parlant, Lucille, en parlant de la relation au père. On est absolument, enfin, c'est le sujet central. Si on interroge Pamuk, il dit, c'est un livre sur le père, sur l'absence des pères, sur une société tout entière qui se révolte non plus contre les pères, mais contre un monde sans père, un monde où les pères n'assument plus leur rôle de père et où on aspire à une autorité qui peut du coup devenir brutale, etc., etc. Il y a toute une charge symbolique, théorique, même politique du livre qui est pour moi ce qui l'empêche, ce qui lui l'empêche souvent ou en tout cas assez longtemps de décoller. Parce que le jeu sur Oedipe d'un côté, sur Sorabe de l'autre, je ne sais pas si je le prononce bien. Clémence, c'est-à-dire les deux mythes inversés, puisque Sorabe est celui qui est tué par son père par erreur, comme Oedipe tue son père par erreur, c'est-à-dire sans le savoir. Bref, il installe ce dispositif théorique et référentiel-là de manière extrêmement appuyée, extrêmement discursive. Il essaie de mêler ça, et je trouve aussi que tout ne prend pas, tout ne se retrouve pas sur le même plan et dans la même dynamique. Et au bout du compte, on a envie... On aimerait que ça décolle, et que ça décolle sans ces... Enfin, que ça flotte, si vous voulez, sans ces bouées-là. Or, c'est ce qui finit par se passer, et par se passer pour moi avec beaucoup de force, parce que d'abord, il y a dans la deuxième partie un sens du passage du temps qui est extrêmement dense et très fin. Il y a quelque chose de très beau dans cet accéléré historique, notamment. Il a cette très belle idée de raconter les voyages en avion de son personnage, qui, de l'avion, quand il décolle ou quand il atterrit en Turquie, voit les immeubles se construire, voit le lieu où, par exemple, dans son adolescence, il construisait ce puits, se remplir d'ateliers, d'usines, d'habitations. Il montre très bien comment Istanbul, d'ailleurs, avale la petite ville où cela se passait, comment tout est avalé par la ville. Tous ces aspects-là, très concrets, pour le coup, très historiques, mais au sens où l'histoire n'est pas justement l'affrontement des grands principes et l'affrontement des grands mythes, comme il le fait beaucoup dans le reste, là, quelque chose prend et qui finit par insuffler de la force à l'histoire personnelle de son personnage, avec notamment de très très belles scènes finales qu'on ne peut pas raconter ici, parce que vraiment il y a des surprises, il y a du retournement et tout ce que l'on veut, mais surtout il y a tout à coup une émotion qui prend et quelque chose d'assez fascinant qui va bien au-delà de l'idée que l'auteur semble avoir de son livre.
Lucille Comeau, avant de revenir vers vous, Clémence.
Oui, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mais c'est vrai, ça se situe vraiment dans le livre, vous avez raison, Florent, il y a une appréhension du temps qui se fait non plus justement du point de vue historique, mythologique, mais géographique, avec l'étendue en effet de la ville, et c'est là qu'on rejoint la question politique qui, pour le coup, moi, m'a plutôt intéressée, la question filiale d'affrontement entre le père et son fils, et puis encore avec un autre personnage qui a paraîtra plus tard, de l'évolution politique de la jeunesse, de ce que c'est que la référence révolutionnaire pour la jeunesse qui n'a pas du tout le même sens quand on est né dans les années 40-50 et puis quand on est né dans les années 80. Ça, c'est assez passionnant et ça s'articule, mais presque trop vite, au détour d'une page, par en effet des mentions de lieux, mais moi, j'aurais aimé presque plus ça, plus de cet intérêt-là.
Trop vite et trop tard,
disons presque documentaire. Oui. Voilà, c'est trop tard.
Il
on a eu une première partie.
Bravo, malheureusement,
oui, tout à fait. Et puis il y a des répétitions qui sont vraiment très très fatigantes, même dans la première partie. La question du rapport avec le maître, enfin, on s'en rend un peu plus de la réflexion des
interminable.
C'est ce qu'il a de didactique,
bien sûr, de théorique, de très théorique.
Il répète de l'action parce que il veut insister sur l'idée. Du coup, il affaiblit l'action. Bien évidemment,
Clémence Poulidi. Si ne vous en déplaise, c'est quand même pour moi depuis un certain nombre de livres le gros problème de Orhan Pamuk qui veut tellement nous faire,
il a tellement de choses à dire
qui sont tellement importantes parce que sa pensée est tellement importante qu'il en oublie pour moi de, il en oublie quand même parfois souvent d'être l'écrivain absolument formidable qu'il a pu être, mais pour moi ça remonte quand même à quelques années déjà. Enfin quand
je dis
quelques,
c'est passé. La page 167,
oui non mais voilà donc quand ça arrive, oui ce qui est déjà pas mal. Encore faut-il y arriver.
Non j'ai dit
fait ouais,
178, 178, vous avez regardé.
Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. La page 176, vous verrez.
Non, c'est vrai que je vous écoute, je suis assez surprise. Je ne le ressens pas comme ça et je suis en train de me demander si c'est parce que les lieux qu'il cite, le fait de lire l'université de Beşiktaş, les lieux comme Sarrière, Taksim, Nişantaşı, tout ça, moi ça me parle beaucoup, ce sont des quartiers que j'ai fréquentés. Alors je me dis, bon, peut-être que je ne suis pas complètement... comment dire, honnête intellectuellement et littérairement par rapport à Orhan Pamuk.
Normal.
Mais
par rapport à...
après, là où je rejoins, c'est que moi aussi, il y a des moments où je me suis vraiment ennuyée. Ah. Vraiment.
Donc c'est pour dire.
Les histoires avec le maître Puisuatier, tout ça. Ouais. Par contre, à partir du moment où il rencontre Ayşe et il se marie avec, et leur relation, je la trouve très belle. J'ai beaucoup aimé aussi cette histoire de. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants tous les deux, lui qui a manqué d'un père.
Vous n'en dites pas trop.
Non,
hein.
Je n'en dis pas trop, vraiment, je me retiens.
En même temps, Florent, je trouve que Ayşe, donc sa femme est assez falote. Elle existe assez peu dans le livre.
Pas du tout. Ouais, moi, je suis
d'accord. Ah bon?
Oui, je trouve qu'il y a des choses très belles dans les sentiments du personnage, dont je prononcerai plus le nom, Cem. Dans le cadre de ce mariage, de cette histoire d'enfant, etc., il y a de très belles choses de son côté, mais il n'y a pas de personnage en face. Pour moi, je ne vois pas exister la femme.
Oui, mais en même temps, excusez-moi, en même temps, finalement, on ne sait pas. Enfin, j'ai pas du tout envie de dire quoi que ce soit pour divulguer la fin de ce livre, mais à un moment, on se demande réellement qui a écrit ce livre, qui est le narrateur,
alors
qui en est l'auteur.
Un coup à la fin,
moi j'aime bien. Moi ça m'a plu. Et justement, je me dis, dans ce cas-là, Ayşe, c'est normal qu'elle soit un petit peu effacée, puisque quand on lit.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est normal.
Je pense que
ça fait partie du plan de Pamuk, mais je trouve que son intention est erronée, que son intention nuit à son livre.
C'est un livre qui suit. Qui suit un plan, quoi.
Et que ce soit normal, d'effacer un personnage prouve que quelque chose a été mal conçu dans le livre, parce que nous, on a envie de voir vivre.
Et puis, il n'y a pas une pièce qui bouge dans la construction, c'est vraiment.
D'ailleurs, il y a un petit croquis depuis à un moment.
Oui, c'est vrai. C'est
exactement ça.
J'ai pensé d'ailleurs qu'il allait partir avec plus de croquis.
Non, mais c'était une sorte.
D'ailleurs, je pense qu'on peut tous désormais creuser des puits. C'est une formation accélérée.
C'est vrai.
Vous irez en bas, vous, Florent. Je resterai en haut, moi.
Ceci étant dit, quand même, il y a des petits moments de lyrisme et il y a des phrases qui sont absolument sublimes. Moi, j'ai été en
Non, mais il sait, évidemment, sait.
Ah, quand même.
Le passage qu'on a choisi.
Mais, encore une fois, il y a 50 pages dans ce livre qui sont vraiment d'un grand écrivain. Mm. Mais elle
50
tard.
Pages sur 200 et quelques.
C'est déjà pas mal, vu le tout venant. Bon,
exactement.
Allez voir par vous-même, lisez donc La femme aux cheveux roux pour faire votre opinion. Ce livre d'Orhan Pamuk, publié chez Gallimard, une traduction de Valérie Gay-Aksoy. À suivre, Jorge Volpi, Brett Easton Ellis, Florent Groisel et Youn Lokar.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute littéraire avec un roman mexicain, L'affaire Florence Cassez. Jorge Volpi, publié au Seuil dans une traduction de Gabriel Iaculli. Florence Cassez, c'est un nom qui a fait les gros titres de la presse, qui a déclenché une grave crise entre la France et le Mexique. Ça a duré un certain nombre d'années. C'est à partir de ce fait divers, on va le voir, digne des meilleurs ou des pires polars politiques, je ne sais pas, que Jorge Volpi a écrit ce livre. On va en dire un peu plus dans un instant, mais un premier rapide tour de table pour résumer vos impressions sur ce livre, Lucille Comeau.
Ah, un grand roman, un documentaire vraiment haletant pour moi.
Clémence Pouletti.
Un dit roman complexe pour une affaire qui n'en est pas moins.
Florent Georgesco.
Volpi est un enquêteur de grand talent qui a réuni à peu près tous les éléments de ce dossier. C'est par ailleurs un romancier puissant, mais j'ai l'impression que le premier a eu la peau du second.
Il y a pas mal de crimes, évidemment, là-dedans. Et c'est Joséphine Dumoulin qui va nous lire l'avertissement qui figure au début de ce livre.
Lecteur, tu vas entrer dans un roman documentaire ou un roman sans fiction. Ce qui signifie que si j'ai tâché de donner une forme littéraire au chaos de la réalité, tout ce que je raconte repose sur le dossier des poursuites pénales engagées contre Israël Vallarta et Florence Cassez, les reportages qui les ont précédés, les déclarations des protagonistes de cette affaire et encore les entrevues qu'ils ont accordées. Pour autant que je me sois efforcée de confronter et de ratifier les témoignages contradictoires, je n'ai souvent eu d'autre recours que d'opter pour la version qui m'a semblé la plus vraisemblable. Pour combler les innombrables vides et lacunes, j'ai parfois pris le risque d'établir des conjectures, ou d'imaginer des scènes ou des situations privées de substance dans les documents, les preuves ou les témoignages officiels. En de tels cas, je l'indique explicitement, pour éviter qu'une fiction que j'ai conçue puisse être confondue avec une de celles tramées par les autorités.
Nous voilà donc avertis par Jorge Volpi, on sera encore plus avertis, on en vaudra 8, donc, puisque nous sommes 4, quand Lucile Como nous aura fait un petit rappel. Hein, je vous ai réservé cette petite friandise.
Sur
l'affaire Florence Cassez. Mais elle est passionnée par ce livre, donc j'imagine que c'est un exercice.
Pas du tout à l'inverse par l'affaire, ouais, que j'avais pas suivi du tout à l'époque. Donc pour le coup, c'est tout à fait neuf pour moi. Donc alors, tout commence dans cette affaire en décembre 2005, quand, dans un journal télévisé mexicain, on montre, a priori en direct, l'arrestation de deux ravisseurs supposés et la libération de trois otages. Tout est immédiatement récupéré, très mis en scène, très commenté, parce qu'on est à un moment au Mexique où l'enjeu, la question des enlèvements est un enjeu de sécurité
qui touche
publique
tout le
énorme,
monde,
ouais, qui touche tout le monde, et donc du coup le pouvoir est très, très, très au taquet là-dessus. Sauf que parmi ces ravisseurs-là, il y a une jeune femme qui s'appelle Florence Cassez, qui est donc française, qui clame son innocence dès le départ, dès ce fameux reportage télévisé et après dans la prison dans laquelle elle est incarcérée, qui clame son innocence tant et si bien que le président nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, en 2007, s'empare très personnellement de cette affaire et décide de la faire libérer. Donc ça devient un espèce d'imbroglio diplomatique gigantesque. Ça va même jusqu'à menacer l'année du Mexique en France. Mm-hmm. Il y a vraiment un affrontement qui se fait au sommet entre Felipe Calderón et Sarkozy. Et puis finalement, après des années et des années de détention, de procès, de recours, de tractations diplomatiques extrêmement compliquées et qui impliquent quasiment la planète entière, c'est assez surprenant. Elle est libérée, Florence Cassez, alors que son compagnon, lui, le fameux deuxième ravisseur, Israël Vallarta, lui, est toujours à ce jour sous les verrous.
C'est un beau résumé. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer dans nos commentaires sur ce livre, dont le titre original est un roman criminel, non pas un roman mexicain. C'est un beau titre, un roman criminel. Et je pense qu'on aurait quand même pu le garder, Florent Georgesco, mais au-delà de ce titre.
Un roman mexicain n'est pas mal non plus, parce qu'on est vraiment... un des intérêts du livre, car il y en a, c'est de nous plonger à ce point et de voir de si près ce qui, pour nous, est si extraordinaire dans la vie mexicaine.
Ouais.
Sur tous les plans qui sont traités dans le livre, il y a évidemment cette industrie de l'enlèvement. Donc ça commence d'ailleurs par un cas qui est relié à celui de Cassez, mais qui est relativement différent, celui de la jeune Valeria. On voit très bien, ça nous permet vraiment d'avoir une idée de la manière dont ça se passe.
Le mode opératoire, vraiment.
Les modes opératoires, du fait qu'il ne s'agit pas toujours de sommes d'argent colossales. C'est une industrie avec ses petits et grands niveaux, et donc c'est un cancer, pour prendre un cliché, dans la société mexicaine, qui montre très bien. Il montre très bien aussi, évidemment, la corruption de la police, une justice elle-même assez incohérente pour être gentille, etc., etc. Donc c'est assez... Peut-être que l'aspect documentaire pour nous sur le Mexique
est particulièrement
fascinant.
Enfin, fascinant, ça fait pas envie du tout. Hein. On est fascinant au sens vraiment où on n'en croit pas ses yeux de lire des choses pareilles.
Après, alors, comme je le disais dans ce petit mot d'introduction, c'est un art extrêmement difficile, ce qu'il appelle le roman documentaire. Et bien sûr qu'il faut faire ce qu'il a fait, ce qu'il semble avoir fait avec beaucoup de rigueur et en tout cas une très grande force dans l'enquête, c'est-à-dire réunir tout, avoir les éléments. Ce livre est, pour l'essentiel d'ailleurs, une lecture du dossier. Bon, voilà, c'est un dossier très bien étudié. Mais alors, ce qui commence pour moi à l'affaiblir, c'est premièrement, c'est quand même justement beaucoup le dossier. Je trouve que les parts d'entretien, notamment, sont assez faibles et qu'il y a une dimension du coup de la parole des protagonistes qui manque. Il y a le travail policier et son démontage, le travail de la justice, etc. Il y a le résumé de la dimension politique qu'on a évoquée. Mais il manque déjà cette incarnation-là. Et je trouve que pour le coup, il n'a pas réussi à obtenir beaucoup de grands entretiens passionnants avec les protagonistes. Mais par ailleurs, il y a un problème beaucoup plus grave dans ce livre pour moi, c'est qu'il n'arrive pas à trier l'information. C'est qu'au bout du compte, il a tellement de choses que moi, j'ai l'impression, il y a beaucoup de choses impressionnantes dans le livre, on voit une société en train de se noyer, mais on voit aussi un écrivain en train de se noyer dans son dossier. J'ai l'impression de le voir en train de tourner les pages pour essayer de trouver l'information adéquate, et c'est tellement difficile de trouver la bonne, de trouver ce qui est pertinent, et de monter tout ça de manière analytique, qu'il nous balance tout. Et le fait de savoir que la belle-mère de machin a prêté un tel jour, n'apporte strictement rien, et ce genre de détails se trouve partout dans le livre, ce qui, d'une part, pour moi, on rend la lecture peu à peu assez fastidieuse, alors que franchement, on ouvre ce livre de manière avec beaucoup d'excitation. On se dit chouette, une vraie enquête. Enfin, on a tous des modèles en tête. On se dit tous que quelque chose de passionnant peut se passer, mais ça devient assez fastidieux, du coup assez ennuyeux, et au-delà de tout, ça finit, j'y reviendrai peut-être, par porter atteinte à son enquête elle-même, parce que, à force de ne pas trier, à force de ne pas montrer les éléments clés, en essayant d'articuler tout cela dans une vision un peu analytique, je finis par avoir des doutes sur les choix qu'il fait, sur la question de la vérité ou pas, de ce qu'il entend, de ce qu'il lit. Et donc, au bout du compte, je finis par avoir des doutes sur sa version de l'affaire, quand bien même il n'a pas une version unifiée de l'affaire, mais y compris, je finis par avoir des doutes à cause de lui dans son par rapport à son plaidoyer sur l'innocence des personnages.
Lucile Comeau, qui n'a pas la même lecture.
Non, alors je suis assez d'accord sur plein de choses, mais alors il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, c'est que justement le fait d'avoir choisi le dossier et donc tout le matériel technique plutôt que l'entretien, c'est justement moi ce qui me passionne. C'est-à-dire
pardon,
que
je ne voulais pas
que...
dire l'un ou l'autre. Hein.
Oui, bien sûr. Il faut les deux, bien sûr. Mais non, mais j'ai tout à fait compris ce que vous vouliez dire. C'est moi qui m'exprime mal. Mais moi, dès que potentiellement le personnage se met en scène comme allant, parce qu'il le fait de temps en temps, voir Florence Cassez, ses parents, Israël Vallarta, au contraire, là, j'avais un petit moment de stress parce que je ne voulais justement pas les rencontrer. Moi, ce qui m'intéresse, mais vraiment, c'est ce montage de point de vue qui fait qu'on a un narrateur extrêmement présent, qui en effet se pose la question de ce qu'est la vérité pour lui, bon, après on pourra y revenir aussi à la question de l'éthique, mais qui est en plus monté par-dessus un dossier avec des niveaux d'objectivité, subjectivité multiples, et c'est là à mon avis que la forme romanesque joue à plein. Et ça me passionne, vraiment. Plus c'est technique, plus il nous fait du compte-rendu avec des milliards de noms, de détails, de couleurs de vannes, et plus je trouve ça passionnant. Parce que je trouve que c'est ça, de la bonne chronique judiciaire, pour moi c'est ça. Et vous disiez en introduction que ce qui vous intéressait le plus, c'était probablement le portrait un peu grouillant de ce qui se passe au Mexique. Et je trouve que c'est comme ça qu'on y parvient. C'est en ayant plein de personnages secondaires qui peuvent potentiellement ne servir pas à grand-chose, des petits détails très précis, à la fois sur le fonctionnement judiciaire de ce pays qui quand même considère les personnes comme coupables, ils sont présumés coupables avant d'être, voilà, ils doivent clamer leur innocence, c'est quand même un fonctionnement particulier, et ce que ça implique après dans les relations sociales, dans ce qui se passe entre les petits commerçants, dans la manière dont fonctionne la vie sociale à l'aune de cette question judiciaire, je trouve ça passionnant.
Bon, on n'a pas encore entendu Clémence Pouletti, passionnée, mitigée, énervée.
Mitigée, un peu ennuyée aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, j'étais contente de lire ce livre, parce que je me suis dit une affaire qui est intéressante, qui voilà, est passionnante. Hein, voilà, je m'attendais à quelque chose de passionnant et je me suis très vite ennuyée. Au début, j'ai beaucoup aimé parce que tout de suite, il fait le récit d'un kidnapping, on est dans l'enlèvement, tout va bien. Puis très vite, dans le sens littéraire, dans le sens de l'émotion qu'on a envie de vivre. Moi, j'avais envie de vibrer. Et donc, je vibrais et puis, tout de suite après, je me retrouve avec trois pages de Wikipédia sur... Enfin, pas Wikipédia, mais je veux dire, on a des portraits très, très conventionnels avec tout un tas d'informations dont je n'ai absolument rien à fiche. Et en fait, moi, j'avais une attente qui était grande. J'avais une attente un peu peut-être à la Emmanuel Carrère. Je m'attendais à lire L'Adversaire version mexicain, finalement, et j'ai été déçue. Toutes ces dizaines de personnages de dates, toutes les dates, je n'en pouvais plus des dates. Vraiment, au bout d'un moment, moi, ça m'a perdu, ça m'ennuyait. Alors, très vite, je me suis dit, bon, bah, au lieu de... Puisque, bon, finalement, le fond ne m'intéresse plus. Je me suis intéressée à la forme. Et ce qui m'a... En fait, moi, je me pose beaucoup de questions sur ces questions de fiction, non-fiction, fiction dite documentée, roman. Et même lui, parce que dans ses épigraphes, dans son avertissement, dans sa fin aussi, il en parle tout le temps, il revient sur ces questions-là. Donc, du coup, bah, finalement, moi, au fur et à mesure du livre, j'ai commencé à m'intéresser plus à ça qu'à ce qu'il racontait. Et je me suis un peu ennuyée, vraiment.
Alors, on est un peu obligé de s'intéresser à cette question parce que lui-même, il revient régulièrement. Oui, oui. Mais moi, je pencherais plutôt du côté de Florent Georgescu parce que vouloir faire un livre en disant je suis totalement subjectif et totalement objectif, pour moi, ça l'amène à une impasse. Alors qu'effectivement, moi, j'attendais ces rencontres, où il investirait quelque chose de lui-même. On pense évidemment à Truman Capote qui allant voir les condamnés de sang-froid. Enfin, et ça n'advient pas. Et pour moi, il y a quelque chose d'obsessionnel. Alors ça, c'est la dimension peut-être obsessionnelle de Lucille Como qui trouve son bonheur dans ces grandes listes. Mais moi, j'avoue que je me suis un peu lassé, même si il y a des choses qui sont tellement effarantes quand même que je relisais certains passages. Mais c'est pas possible que cette chose-là advienne. Le roman, le livre plus exactement, est beaucoup trop épais pour que cet effet de sidération se poursuive dans ces énumérations répétées. Vous voyez ce que je veux dire, Lucille Comment ?
Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire que disons l'exhaustivité, le côté obsessionnel du roman est à la mesure de l'effet de sidération aussi qu'il produit. C'est-à-dire que le décortiquer, c'est la seule chose qu'on peut faire, et c'est un travail d'écrivain face à l'injustice telle qu'elle est pratiquée. Voilà, c'est justement la question technique est une réponse.
Mais il le fait par moment.
On pourrait aussi faire vivre des gens. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi disparaît.
Je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, le personnage qui est un personnage, à mon avis, point aveugle et le plus passionnant, c'est Israël Vallarta, donc cet ancien amant de Florence Cassé, avec qui elle n'est plus vraiment au moment où ils se font arrêter, qui est un personnage extrêmement ambigu, pour le coup, que toute la question technique ne parvient pas à saisir, et tourne autour en essayant de parler notamment de sa famille, de sa place dans la communauté juive mexicaine, des potentielles magouilles qu'il a mis en place, parce qu'il n'est pas non plus forcément tout blanc, la question de comment une personne comme ça, qui vient plutôt d'une sorte de bourgeoisie commerçante mexicaine, se situe toujours un peu à la marge de la légalité, de l'illégalité, et à quel point ça pose ces questions-là. Moi, ce personnage, je le trouve passionnant, et c'est un personnage qui n'apparaît quasiment pas, mais qui se construit grâce à tout un matériau technique qui tourne autour de lui. Finalement, les dernières images de lui dans la prison, moi, m'ont beaucoup ému. J'ai été vraiment assez profondément ému par lui.
Jean-Georgesco.
Oui, moi je sens plutôt son absence, mais enfin bon, ça
peut être quelque chose de subjectif.
Et l'absence d'un regard d'écrivain sur ce personnage qui pourrait en avoir beaucoup plus, qui pourrait prendre une ampleur plus grande. Mais je vais revenir juste peut-être sur la question de l'enquête elle-même et de ce que veut démontrer Volpi. Parce que, alors, il faut dire qu'il a une thèse. Il écrit ça de manière honnête, nuancée, donc je ne dis pas que sa thèse est affirmée péremptoirement, mais enfin, il y revient régulièrement, c'est celle de la culpabilité de ce Margolis, qui est un gros homme d'affaires, lui pour le coup, très important dans la communauté juive mexicaine, qu'on surnomme le golem, au sens du protecteur de cette communauté.
Et, sens double quand même, non ?
Au sens double, mais enfin, beaucoup de gens de la communauté juive mexicaine ont de la reconnaissance envers lui, et cette image pour eux exprime ça. Mais enfin, Volpi l'utilise doublement, lui, évidemment. La manière qu'a Volpi d'en venir à la culpabilité éventuelle de ce personnage, et fait partie des choses qui, vraiment, dans le travail, disons, journalistique de Volpi, ne me convainc absolument pas. Je veux bien, il est possible que Margulies soit coupable, tout est possible là-dedans, ça c'est ce qu'il montre. Mais ce n'est pas Volpi qui m'a apporté des éléments probants pour me démontrer ça. Or, il y insiste lourdement, et il y insiste un peu selon la technique de l'approximation. Il était là à tel moment.
Du faisceau de présomption.
Du faisceau de présomption lâche. Ouais. Ce qui est un tout petit peu embêtant quand il s'agit de démontrer quelque chose dans la réalité, puisqu'en effet, Lucille, je crois que vous prononciez le mot, il y a nécessairement une question éthique très particulière dans ce genre de littérature. Ouais. Et sur ce plan-là, je ne suis pas très à l'aise avec ce que fait Volpi, d'autant que, alors, il y a aussi la rumeur absolument pas sérieusement étayée, selon laquelle ce Margulies aurait été membre du Mossad, ou en tout cas en lien avec lui.
Et on finit. Lui-même joue avec ça.
Il joue avec ça, mais il explique en même temps qu'il commerce avec le Mossad. Enfin, il y a un passage du livre où il dit clairement, je n'en ai jamais été, c'est une blague. Donc, cette blague, Volpi s'en sert et fait peu à peu émerger quand même une sorte de pieuvre, quelques tentacules d'une sorte de réseau juif mondial, puisqu'il y a le Mossad en jeu.
Bah, c'est bien pour ça qu'il avance.
Qui ne me plaît pas particulièrement.
Il marche sur des œufs, Jorge Volpi, suivant cette thèse quand même.
Il finit quand même par bien les écraser, les œufs sur lesquels il marche. Parce que l'insistance sur cette thèse-là est un peu lourde à force, et surtout, elle manque de sérieux dans la manière de l'étayer.
Pretty.
Oui, moi aussi, je me suis posé pas mal de questions d'éthique en lisant ce livre, et j'ai beaucoup de mal avec ce genre qui n'est pas vraiment de la fiction, un peu romancé. Je trouve que c'est toujours un peu spécial. Et ces frontières un peu poreuses, moi, j'aime pas trop m'y aventurer. J'étais un peu gênée par ça.
Moi, au contraire, elle m'intéresse beaucoup.
Ah, oui, voilà.
Et je suis d'accord, la gêne que vous avez ressentie, je ne l'ai pas ressortie forcément à cet endroit-là, mais je l'ai ressentie à bien des reprises, et notamment sur le fait qu'il appelle Florence Cassès Florence en permanence. Bon, ça me gêne un petit peu. Mais par exemple, sur ce personnage-là de Margulies, pour le coup, c'est là aussi que le roman, ça peut être très pratique, j'entends bien, intervient, parce que c'est un personnage éminemment romanesque, et le fait qu'il convoque justement le mythe à cet endroit-là montre, à mon avis, un effet de distance. Moi, je le vois comme justement une manière de romancer, entre guillemets, et parce que le complot, c'est de toute façon la forme du roman par excellence. Donc, je suis d'accord que ça pose en effet des questions de la posture éthique. Mais moi non plus, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il m'ait démontré quoi que ce soit.
Dernier mot, Florent Jean-Jesco.
Flottant, dès qu'on connaît un peu mieux les trucs, il finit par dire Sarkozy, ce président qui a gagné en doublant l'ancien président Chirac, c'est faux puisque Chirac ne se représentait pas. Il a une manière de définir le système judiciaire mexicain en disant c'est un système inquisitorial, ce qui est sans doute vrai, mais le système français aussi est inquisitorial, et pour autant l'accusé n'a pas à faire la preuve de son innocence comme dans le Mexique, donc c'est pas ça qui le définit adéquatement, etc., etc. Il y a en plus de tout quelque chose d'assez imprécis dans la manière qu'il a de définir les choses, qui contribue à jeter ce doute que l'ensemble de la construction du livre, pour moi, ne fait que répondre au fur et à mesure.
Bon, j'en garde quand même la blague du lapin. Raconter ici.
Vous êtes sûr, j'avais envie.
Certainement pas. Un roman mexicain, l'affaire Florence Cassès de Jorge Volpi, pas seulement. C'est publié aux éditions du Seuil, dans une traduction de Gabriel Iaculli. Le coup de cœur, il est pour Lucille Como ce soir, et c'est pour une bande dessinée Révolution, tome 1, La Liberté, je vous reconnais bien là.
Oui, le titre est extrêmement simple, il y aura deux autres tomes, donc le premier s'appelle Liberté, en effet, ça commence en avril 1789 avec le pillage de l'hôtel particulier Réveillon à Paris, c'est comme 14 juillet, le roman d'Éric Vuillard, et la bande dessinée partage avec le roman une acuité historique remarquable, un sens du romanesque qui emporte le lecteur, et aussi un choix de personnages particuliers, c'est pas du tout les grands protagonistes qui sont privilégiés, ils apparaissent ici ou là, mais toujours en second plan, ce sont des petites mains un petit pied de la Révolution. Donc, il y a une jeune vagabonde, une petite ouvrière, un espion passionnant à la solde de l'aristocratie. Et il y a aussi deux frères jumeaux bretons, dont l'un est député du tiers-état, donc extrêmement virulent à la tribune. Et l'autre, apparemment totalement désinvesti, c'est avec lui qu'on rentre dans Paris au début et qui finit par s'engager au fur et à mesure. Donc ce côté choral permet d'appréhender la grande complexité des rapports de force, qui est toujours beaucoup plus riche que juste la fameuse triade monarchie, aristocratie, peuple, notamment ce qui oppose le peuple de Paris et la députation du tiers-état, ça c'est très bien mis en scène, et même au sein du peuple, tous les mouvements qu'il peut y avoir, ça c'est toujours bon à prendre cette complexité quand il s'agit de décrire un mouvement social. Ceci étant dit, donc les deux auteurs s'appellent Florent Croisel et Youn Lokar, et c'est assez remarquable, ils font tout à quatre mains, ils dessinent et ils scénarisent tous les deux, avec de grandes planches, notamment on voit la prise de la Bastille sur double page, des cartes de Paris, ça c'est ma passion, les cartes du Paris ancien. Les couleurs sont extrêmement simples.
Oui, les listes, les cartes. Et du Mexico ancien.
Non, il n'y a pas. Non, là, on est vraiment, vraiment à Paris avec des scènes collectives spectaculaires. Et ce qui est très beau aussi, c'est la langue qui est un mélange. Je pense qu'ils se sont beaucoup posé la question de langue du 18e et du parler populaire d'aujourd'hui. C'est pas évident et ça marche très bien. Donc ça se passe beaucoup dans la rue. On est toujours au ras du pavé, vraiment à ras du regard du peuple. Il y a des histoires d'amour, c'est pour vous Clémence, des histoires familiales, des intrigues vraiment de romans d'espionnage, pas seulement la grande histoire.
C'est bien.
Vraiment, moi, je lis très peu de bandes dessinées parce que j'ai toujours l'impression d'aller trop vite, de pas assez regarder les images, de sauter des bulles. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui est à la fois très prenant et en même temps qui ralentit le rythme de lecture et c'est très agréable.
Et c'est un livre signé par Florent Groisel et Youn Lokar, son titre, je le rappelle, Révolution, c'est le tome 1, La Liberté, chez Actes Sud. Et à cette heure, il me faut quand même faire aussi une annonce sur notre week-end Imagine, France Culture à nouveau au Centre Pompidou, toute cette fin de semaine, avec nombreuses émissions en public samedi et dimanche. L'entrée est évidemment libre, j'aurai la chance de débuter par une masterclass avec Giuseppe Pennone, il y aura sur la thématique « Quelle histoire ?», un marathon radiophonique samedi après-midi, mené évidemment de main de maître par Aurélie Luneau, Antoine Guillot, Julie Gacon, Toufi Kakem. D'autres masterclass à suivre, Christian Ingrao à 18h15 samedi, il y aura Sébastien Osalgado dimanche matin 11h, il y aura également Noémie Lvovsky dimanche à 18h également pour les masterclass. Et puis une nouveauté sur notre antenne, c'est l'épingle du jeu, une émission qui va succéder au papou dans la tête. C'est Odile Conseil qui mènera la danse, donc samedi soir et dimanche soir, deux enregistrements en public de 20h à 22h de l'épingle du jeu. Donc vous pouvez vous retrouverez beaucoup d'anciens des papous dans la tête dans cette émission. Vous pouvez bien sûr venir y assister en réservant sur le site maisondelaradio.fr.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire ce soir, c'est White, de Bret Easton Ellis. On a peu de temps pour en parler, ça tombe mal, hein. C'est non, chez oui. Robert Laffont, dans une traduction de Pierre Guglielmena. Il fallait être plus rapide sur les autres. C'est pas ma faute. Pour rappel, Bret Easton Ellis a 21 ans quand il publie son premier livre, Moins que zéro, succès immédiat, qui va pas se démentir, le succès, Les lois de l'attraction en 87, American Psycho en 91, il accède au rang d'écrivain culte très tôt et au rang ensuite d'écrivain sortant assez peu de livres, ce dont il parle d'ailleurs dès le début de White. Quatre de ses romans ont été adaptés au cinéma, lui-même signe deux scénarios dans les années 2010. Résumé sur votre critique à venir de White que vous développerez ensuite, Clémence Pouletti.
Nourricier de nombreuses réflexions.
Florent Georgesco.
C'est un chant du cygne, mais il faut se souvenir que le cygne est un animal assez arrogant, brutal. Et c'est ce qui fait tout le charme et l'intérêt de ce livre.
Dans la bouche de Florent Georgesco, c'était un grand compliment.
Heureusement, cette histoire d'un homme qui voit le monde qu'il a connu s'évanouir est extrêmement excitante parce que c'est le regard de ce cygne-là.
Lucille Comeau.
Je dirais que c'est un mélange de grande banalité et de fulgurance, mais j'étais très contente de le retrouver.
Un extrait de ce White lu par Aïssa Tundoy.
Un des hymnes les plus bruyants de ma génération était Bad Reputation de Joan Jett, dont le refrain était I don't give a damn about my reputation, I've never been afraid of any deviation. Ma propre réputation est devenue la cible d'une pensée unique lorsque ma maison d'édition, appartenant à un conglomérat, a décidé qu'elle n'aimait pas le contenu d'un roman difficile pour lequel j'avais signé un contrat qui m'engageait à l'écrire et à refuser de le publier pour des raisons de goût. Elle avait été offensée. C'est une histoire sur laquelle je reviendrai plus tard, mais ce fut un moment inquiétant pour les arts. Même s'il a fini par paraître normal, en effet, une entreprise décidait de ce qui serait ou ne serait pas permis, de ce qui serait ou ne serait pas lu, de ce qui pourrait ou ne pourrait pas être dit. La différence entre alors, 1990, et maintenant, étant qu'il y avait eu des discussions et des protestations retentissantes à ce sujet, de chaque côté de la fracture. Des gens avaient des opinions qui divergeaient, mais ils en débattaient de manière rationnelle, poussés par la passion et la logique. L'idée d'une censure d'entreprise n'était pas tout à fait acceptable à l'époque. Vous ne pouviez pas soutenir qu'une certaine émission de HBO n'aurait pas dû être écrite au motif de son racisme supposé, mais non prouvé. Il n'y avait pas encore une chose comme le crime de pensée, qui est aujourd'hui une accusation quotidienne. Les gens s'écoutaient les uns les autres, et je me souviens d'un temps où vous pouviez avoir des vues très arrêtées et remettre en question les choses ouvertement, sans être considéré comme un troll et un ennemi à bannir du monde civilisé si vos conclusions s'avéraient différentes.
White de Bret Easton Ellis, un des fragments, nombreux fragments, on peut dire rapidement, parce qu'il faut qu'on entre dans le vif du sujet, Clémence Pouletti, de quoi alors, il est composé ce livre.
Bret Easton Ellis constate et dresse le portrait de l'Amérique extra-contemporaine, celle d'aujourd'hui, de maintenant, là tout de suite, de fin des années 2010, et pas de fiction pour nous décrire, mais une sorte de témoignage de 290 pages, découpé en plusieurs parties, comme être acteur, post-sexe, like et tweeting, 290 pages dans lesquelles il parle beaucoup de cinéma, des films d'horreur des années 70 à Moonlight, en passant par Tom Cruise et Tarantino, on y trouve aussi des explications non de texte mais de tweets, des états d'âme, des petites confessions sur son parcours d'écriture de roman et, ce qui fait beaucoup parler en ce moment, une cinquantaine de pages sur Trump et la manière dont les Américains ont réagi à cette élection, ainsi que quelques dizaines de lignes sur la génération Y, dite génération dégonflée. La population serait passée de nihiliste à victime, selon Bret Easton Ellis.
Donc vous êtes une dégonflée, hein, il faut quand même le dire.
Je suis une dégonflée, totalement.
Clémence Pouletti, je représente dans ce studio... Cara, Lucille, comment vous n'êtes plus la plus jeune ici, c'est comme ça. Mais votre regard sur ce livre,
en tout cas, je suis restée le plus.
Ça arrive à tout le monde. Pas sûr, ça.
Bon, alors, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le livre, et notamment, ça se situe quand même aussi assez. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le début, et j'aime beaucoup le Bret Easton Ellis, critique de cinéma. J'aime ce qu'il dit du cinéma, j'aime ce qu'il fait du cinéma pour parler de l'époque, qui est pas si simple que juste utiliser un film pour en faire un miroir de la société. C'est pas du tout ça.
Moonlight,
voilà, c'est ça. C'est toujours aller chercher l'argument esthétique pour expliquer ce qui ne va pas. C'est quand même souvent ça. Notamment sur Moonlight, il se fout à peu près de ce que représente le film Moonlight. En revanche, il va chercher dans la mise en scène une manière de montrer en quoi l'homosexualité aujourd'hui se représenterait mal, en tout cas, selon son point de vue. Après, moi, toute la partie Trump, toute la partie Twitter, cette espèce d'attaque des milléniaux, donc les fameux jeunes d'aujourd'hui qui crient au harcèlement dès qu'on les touche, etc., m'intéresse assez peu. J'y vois une forme de moralisme. En fait, ça me choque pas, hein, pas du tout. Je trouve ça assez banal, en fait. Ça m'intéresse pas beaucoup. Bon, dès qu'on retrouve le Bret Easton Ellis du roman, ça me passionne. Les costumes Armani, la cocaïne dans les toilettes. Mais vraiment... Parfois, c'est même assez étonnant, c'est d'une banalité, c'est presque effarant, presque la bêtise avec laquelle il examine le monde d'aujourd'hui. Je saurais pas. C'est presque tellement bête qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas autre chose derrière ce discours-là. Et dans un second temps, toute cette espèce de contradiction qui pétrisse son discours me passionne et reviennent à l'impossibilité du roman. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est en creux ce que ça dit de l'impossibilité du roman. À quel point tous les discours sont épuisés, à quel point la narration n'existe plus dès lors que le fantasme n'existe plus, par exemple, dans la partie liée au sexe. Tout ça est passionnant. Mais c'est un peu lourd.
Tout ça en procède, enfin tout procède
de ça.
Tout
procède de ça, mais il faut supporter une forme de... voilà, de banalité, de discours extrêmement, même sur les acteurs, enfin des fois c'est... Bon.
Florent Georgescu, on va essayer d'être synthétique tous.
Oui, je vais essayer d'être synthétique, promis, mais c'est vraiment pas facile avec ce livre-là. Non. Et parce que, alors, moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Je partage pas votre jugement sur sa bêtise. Il a des réflexes un peu stupides. Il a le découpage de l'histoire en génération X, Y, je m'y perds, est assez bêta, c'est vrai. Mais il y a un jugement, sur l'époque qui est tout de même assez profond, assez puissant, ce qu'il dit sur l'infantilisme de qu'il observe autour de lui, cette sorte d'appel au fait d'être adulte, ce regret d'une société d'adultes et donc d'une société de gens libres, a une vraie puissance, même intellectuelle, et donc je ne dirais vraiment pas ça. Cela dit, je ne sais pas, peut-être sur ça, s'il faut faire vite, que j'insisterai le plus, parce que il y a quand même avant tout là-dedans une puissance de romancier, malgré tout, une puissance dans la construction, dans l'écriture de ce livre, une tension, une intensité, un art de la composition, une manière d'enchaîner les sujets, une manière en fait de servir de l'ellipse en romancier et en grand romancier qui est assez extraordinaire, qui crée une force d'aspiration. Moi je dois dire, par exemple, au contraire, ces pages sur le cinéma ne m'intéressent pas beaucoup, je reste accroché absolument à ça, je ne peux pas lâcher, parce qu'il y a un souffle, parce qu'il y a une intensité qui tient, juste pour le dire en un mot, c'est ce que j'évoquais en accroche, mais qui tient à ce grand récit derrière l'ensemble des choses qu'il traverse dans le livre, qui est celui de la disparition de son monde. Et il y a quelque chose, notamment, pour prendre un exemple, autour de la... on me fait des gestes. Autour de la disparition du livre dans les sociétés, quand il se souvient de ce qu'a été American Psycho, l'impact absolument planétaire, très profond, qu'a pu avoir un roman comme celui-là sur les sociétés, et qu'il montre très bien comment aujourd'hui le flow et le flux fait qu'aucun livre ne peut plus avoir cette importance. Il y a là un des éléments de cette sorte de grand chant d'adieu qu'est ce livre et qui contribue à le rendre bouleversant.
Alors ça, je crois que ça fait partie pour moi des plus grandes bêtises du livre. Par contre, tout ce qu'il dit sur la construction d'American Psycho, sur son rapport au personnage, est pour le coup assez passionnant. Qu'il n'y ait plus de grands livres qui puissent... c'est une autre question.
Clément Spoletti. Moi, extrêmement enthousiaste. J'étais super heureuse de le retrouver. J'aime ce qu'il dit. Ça m'a fait du bien de lire des propos qui n'étaient pas complètement manichéens. J'avais besoin de ce discours-là maintenant parce que...
Très manichéen, ça dépend.
Ah oui, ça dépend d'où on se place, mais moi j'en ai un petit peu marre de ces discours où tout est radical, tout est extrême. J'avais besoin d'un peu de nuance. Et moi, il me semble que quand même, il en apporte un peu. Je trouve que c'est tempéré. Et ce qu'il dit sur ma génération, qui est la génération Y, qui est la génération dite dégonflée, dite victimisée, victimaire, je ne sais comment il nous appelle. Eh bien, j'étais complètement d'accord. Et ce qui est drôle, c'est qu'au tout début du livre, il y a certaines pages sur son enfance d'enfant bambin des années 70, qui était complètement livré à lui-même. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est complètement mon opposé. Moi, je suis une enfant choyée, aimée. Alors, je vais pas m'en plaindre. Mais je veux dire, je suis pas du tout prête à affronter la vie complètement.
C'est compliqué de rentrer dans le jeu des disputes.
Mais oui, c'est. et en vérité, je me suis reconnue. Ça m'a fait du bien. À un moment, il fait un petit paragraphe que certes, vous pouvez trouver idiot, bête ou je ne sais quoi. Mais moi, j'ai bien aimé ce paragraphe où il me dit, écoute, non, le monde se fiche complètement que tu existes. Il ne t'aimera pas en retour. Tu n'es pas génial. Bon, alors parce que moi, je suis de cette génération. Quand j'ai une mauvaise note, on me dit non, mais t'inquiète pas. C'était une mauvaise note. C'est pas. Tu es quand même formidable. Mais c'est-à-dire que bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a fait du bien.
Non, mais oui, je suis d'accord. C'est une des choses les plus importantes. Oui,
ça agace, c'est le commo.
Moi, j'adore.
Qu'il dit sur la fiction, sur la dureté des romans,
et sur la dureté des films aussi, comme
mode d'initiation à la dureté du monde et au fait que le monde n'est pas fait pour nous, ce sont des pages extrêmement puissantes et
Lucille
importantes.
Je vous laisse mon temps de parole parce que vous êtes agacé.
Non, en fait, ça pour le coup, moi, ne m'intéresse vraiment pas. Je vois une sorte de posture de vieux con, honnêtement, pour le dire très simplement. Que du coup, même la posture invalide pour moi totalement le discours.
Oui,
certes, mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce qu'il y a derrière. Et je trouve que ce n'est pas assez, si facilement accessible. Et la question des films d'horreur, c'est comment, quand on est enfant et qu'on est confronté aux films d'horreur, on devient un individu. Oui. Ça, je trouve ça assez passionnant. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on ne puisse pas devenir un individu en regardant des films d'horreur.
Non, mais ça, je suis d'accord. Les frontières entre les générations, vous savez ce que vous disiez.
C'est lui qui vieillit.
Il y a des gens de génération qui ne sont pas choyés. Il y a des gens de notre génération qui l'étaient. Et ainsi de suite, tout est quand même un tout petit peu plus.
Et même ce qu'il dit sur notre narcissisme exacerbé, parfois j'avais envie de lui répondre. J'ai envie de lui dire oui, certes, nous sommes aussi narcissique que vous. Simplement, nous, on nous a donné des outils tels qu'Instagram pour l'affirmer sans arrêt et le montrer. Mais bref, mais ceci pour dire, et pareil, lui, tout ce qu'il dit sur Twitter, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est... Bon, bref, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et ça m'a fait du bien et je suis très frustrée de ne pas pouvoir plus en parler.
Ah ben voilà, il fallait faire plus vite sur votre ami Oran Pamuk.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Bon, continuons. Bon, si on prend des rendez-vous à chaque fois de feuilletons à suivre, on va avoir du mal. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce livre se lit comme un roman.
Oui.
Ou comme des promesses de beaucoup de romans. Mais... Si, non, mais il y a.
Oui.
C'est un juste un moment, mais quand il parle du 11 septembre,
ah oui,
ce sont des pages de romans qu'il écrit là. On n'est plus du tout dans ses chroniques, ses humeurs. Bon, c'est un exemple parmi d'autres.
Même
ses chroniques, c'est pas le moindre.
Il a une force de romancier en tout.
Absolument.
Et ça montre tout ce qu'il peut encore écrire.
Donc il y a encore des choses à dire sur ce livre. On fera encore des sorties en poche, que voulez-je vous dise.
Ah, très bonne idée.
C'est une bonne idée, non? White de Bret Easton Ellis chez Robert Laffont, traduction Pierre Guglielmina. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner enfin sa réponse.
La question était, parmi Rembrandt, Vinci et Caravage, lequel est l'auteur d'un tableau découvert récemment dans un grenier et prochainement vendu lors d'enchères exceptionnelles? Et la réponse était Caravage.
J'achète. Ce soir, des invitations pour l'exposition Préhistoire, une énigme moderne, jusqu'au 16 septembre au Centre Pompidou à Paris. Formidable exposition. Joséphine ?
Quel artiste d'origine hongroise rapprocha dès 1933 ses photographies de graffitis parisiens des peintures pariétales de la préhistoire ?
Si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par courriel avec vos coordonnées postales, tout ça à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son Alexandre Dang, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, on se retrouve au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute cinéma avec Lucille Como, qui viendra avec ses listes, Charles Garçon et Philippe Azoury. À notre affiche, les météorites. D'accord. Les météorites de Romain Laguna, Lourdes de Thierry de Mazière et Anne Banterlé, un coup de cœur de Philippe Azoury pour le livre Gravité sur Billy Wilder d'Emmanuel Bourdeau, et le petit salon de Lucille Como qui sera consacré au Festival de Cannes.